Gloire à Dieu. Est-ce que c'est assez fort?
Oui.
C'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion de venir partager le message de l'Évangile. Le Seigneur dit dans la parole qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. C'est pas juste pour le prédicateur qui est en avant, c'est pour chacun de vous. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler de Jésus, pour parler de la bonne nouvelle qui est en Jésus, pour parler du salut qui est en Jésus, Dieu il considère que vous avez de beaux pieds, un beau zèle. Il est fier de voir aller, puis ça, c'est à ça qu'on est appelé chacun de nous. Parce que des fois, on peut être découragé. « Ah, moi, j'ai pas ce don-là, je peux pas aller en avant pour aller prêcher. » C'est pas grave. Tel que vous êtes, le Seigneur peut vous utiliser, puis il va considérer que vous avez de beaux pieds. La même chose qu'un prédicateur en avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier, on va remettre ça dans les mains du Seigneur avant d'aller plus loin. Alléluia. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés ensemble. On croit que tu es présent au milieu de nous et je te remercie de ton Saint-Esprit qui est là. Je te remercie de venir nous fortifier, de venir nous encourager, de venir nous relever, de nous équiper puis de nous faire aller de l'avant, Seigneur, pour qu'on devienne des ouvriers dans ton œuvre. Qu'on n'ait point honte de toi, Seigneur, mais qu'on y aille avec ton feu, avec ton zèle, avec une passion, Seigneur, qu'on considère pas en se comparant aux autres pour être découragé, mais qu'on considère plutôt que tu as mis quelque chose en nous, que tu nous as appelés et que nous sommes, Seigneur, choisis de ta part. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas nous révéler ce matin pour nous encourager à aller de l'avant, pour nous encourager à mettre à ton service, Seigneur, les dons qu'on a reçus. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus, de ce que tu vas faire. Amen. Alléluia. Clairement, me venez à vous parler. Oui, ça y arrive. C'est pas grave. Moi, je crois que le Saint-Esprit, il est là, puis le Seigneur va faire une œuvre au milieu de nous. Il veut nous équiper, il veut nous fortifier. Puis ce qui fait une œuvre, là, en réalité, c'est pas le prédicateur en avant, c'est la parole de Dieu qui est proclamée. L'important, c'est chaque fois qu'un verset de la parole de Dieu sort de la bouche d'un prédicateur, ou même que ce soit comme un de vous autres, vous sortez un verset de la parole de Dieu de votre bouche, la Bible a dit, c'est comme la pluie. La pluie tombe, elle tombe sur le sol, puis elle ne s'en retourne pas avant d'avoir fait son effet. La parole de Dieu est vivante, puis elle est puissante, puis elle peut sauver des vies. La parole de Dieu peut régénérer des vies. La parole de Dieu peut transformer, libérer. Il faut croire en la puissance de la parole de Dieu et non pas dans l'éloquence des prédicateurs. Ça n'a pas rapport. Ça peut être une personne qui bégaye, une personne qui est bien lent pour parler, mais quand elle prononce un verset, c'est la parole de Dieu qui sort, c'est la parole de Dieu qui va toucher quelqu'un, c'est la parole de Dieu qui va s'en retourner à Dieu après avoir fait son effet. Est-ce qu'on croit cela? N'ayons pas de honte ou de gêne de proclamer la parole de Dieu. Apprenons des versets par cœur, puis lançons-les partout. C'est ça qui est la semence. Quand la Bible, on voit la parabole de la semence, il dit, un semeur sorti pour semer, comme il semait, mais c'est quoi qui se met? C'est quelqu'un qui s'est déjà posé la question. C'est la parole. C'est des versets de la Bible. C'est des enseignements de Jésus. C'est tout ce qu'on a comme, ce qui nous est déjà donné. Ouvrons la bouche, faisons juste comme se laisser aller, puis réciter les versets, même si c'est slow. C'est rapide qu'on parle des fois trop slow, trop rapide. C'est pas grave. Si la personne a entendu ce que vous avez dit, c'est ça qui est important. Puis Dieu ne regarde pas la performance des hommes, il regarde plutôt si les hommes bâtissent leur vie sur la parole. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on va voir le début d'une série de messages. Il y a au moins 6-7 messages qui vont s'enchaîner avec cette idée-là. Le message de base est basé sur un passage de la parole de Dieu qui nous dit que Dieu a déposé quelque chose en chacun de nous lors de notre conversion. Quand on s'est converti à Jésus, Dieu a mis un dépôt. C'est ça qu'on va développer. On va essayer de comprendre, premièrement, qu'il a déposé quelque chose. C'est quoi qu'il a déposé? Ça se développe en plusieurs choses. Mais le premier verset qu'on va prendre comme introduction, c'est dans Matthieu 25-14. On a souvent entendu parler des prêches dans ces sujets-là, mais ça va comme remettre une autre couleur à ce thème-là. C'est pas le verset clé, mais c'est le verset dans lequel j'introduis.
25-14.
Oui. Là, on voit comme une scène, c'est une parabole, mais c'est une scène que Jésus est en train de parler à des gens pour leur expliquer une vérité. Puis c'est sûr que dans cette parabole-là, quand il parle d'un homme qui va remettre à ses serviteurs, ça sous-entend que c'est Jésus, ça. Puis qui va remettre à ses serviteurs, c'est nous autres. Tous ceux qui lui appartiennent sont ses serviteurs. C'est pas le serviteur d'un autre, on appartient au Seigneur Jésus-Christ. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, il appela ses serviteurs, puis leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. On va s'arrêter là. On va la finir, la parabole, à la fin du message. Dans le contexte qu'on a besoin de comprendre, c'est que Jésus, quand il est venu sur la terre, il savait qu'il n'avait pas pour longtemps. Il a été 300 ans avec ses disciples, le temps est à court, puis il fallait qu'il se concentre à livrer le message, puis à accomplir ce qui était écrit à son sujet. Puis il savait que tout devait être accompli quand il expirait. Il savait d'avance même de quelle mort qu'il devait souffrir, puis annoncer ses disciples là-dessus. Mais il y a une chose qu'il a faite quand même, c'est qu'il a distribué son message pour que les disciples puissent partir avec une bonne base. Mais le point que je veux emmener, c'est, dans ce contexte-là, c'est Jésus, il démontre une parabole de quelqu'un qui sait qu'il s'en va, puis il part pour longtemps, il part pour un long voyage. Ça nous fait penser à Jésus, quand il était sur la terre, il savait qu'il s'en allait pour un long voyage. Mais il n'était pas réellement parti. C'est quoi, dans nos yeux, on pense qu'il est parti. Mais Jésus a dit à ses disciples, après sa résurrection, « Je suis avec vous à tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus est continuellement à côté de nous, même si ça sous-entend qu'il a quitté cette terre. Mais il est présent pareil en esprit, peu importe où ce qu'on est, il est là. Mais avant de partir, ça nous dit qu'il a remis à chacun de ses serviteurs. Il a rappelé ses serviteurs, puis il connaît ses serviteurs. Il connaît les capacités de ses serviteurs. Ils sont venus devant lui, il a remis à chacun, ça nous dit dans le verset 15, à chacun, selon sa capacité, il a remis une part de ses biens. Il a remis une part de ce qu'il avait, mais l'important qu'il faut comprendre, c'est qu'à chacun de ses serviteurs, il a remis quelque chose. Puis il a remis quelque chose à chacun selon sa capacité. Dieu ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Dieu vous appelle, il vous connaît intimement, il sait vos capacités, puis quand vous êtes venu à lui, vous êtes devenu son serviteur, puis il a déposé quelque chose en vous. Peut-être vous me dites, ouais, mais je ne l'ai pas encore trouvé, c'est quoi qu'il a déposé? Ça, on va le voir dans les études dans le futur, mais l'important, c'est de réaliser que Jésus ne vous a pas mis à part. C'est pas à cause que vous mesurez 5 pieds 2, puis je me dis, je suis trop petit, moi, pour faire partie de cette gang de géants-là. Non. Jésus, la grandeur compte pas, la grosseur compte pas, la langue compte pas, la couleur de peau compte pas. T'as cru en Jésus, t'es devenu son serviteur, t'es rentré dans sa gang, autrement dit. Puis là, maintenant, il t'a déjà distribué quelque chose quand t'as commencé à vivre pour lui. On va continuer dans cette idée-là sans aller plus loin dans ce parabole-là. On va aller dans 2 Timothée 1. Je ne sais pas si c'est nécessaire que vous alliez lire tous les versets. Moi, je les ai tous déjà écrits, je peux les lire. 2 Timothée 1, les versets 12 à 14. Paul, il y avait un fidèle disciple qui était toujours avec lui, qui était avec lui dans ses voyages missionnaires. Ce fidèle disciple-là, il accompagnait Paul des fois même dans la prison, parce qu'il était emprisonné avec Paul. Puis des fois, il était dans le ministère en train de prêcher la parole partout ce qui passait. Puis à un moment donné, Timothée, il était mis comme en charge d'une église, pour prendre soin d'une église. Il y avait des messages qu'il recevait de Paul, puis là, Paul lui disait « Va à telle place, puis va lui dire ça ». Timothée était un fidèle serviteur, puis il allait un peu partout, sauf le seul petit problème qu'on voyait dans les Écritures, c'est que c'était un homme qui était jeune, puis il dit, laisse-toi pas intimider à cause de ta jeunesse, que même que personne ne méprise ta jeunesse. Autrement dit, laisse-toi pas écraser parce que t'es le plus jeune de la gang. Ça n'a pas d'importance. Je t'envoie, Paul il envoyait à Timothée pour aller livrer un message. Mais des fois, dans les Épîtres, Paul il écrit 2 lettres directement à Timothée, puis dans ces lettres, il exhortait Timothée à un sujet qui est très intéressant, qui fait partie un peu de notre sujet, puis c'est ça qu'on va développer, puis on va aller lire ce passage-là dans 2 Timothée 1, 12 à 14. Il dit, Paul est en train de se citer en exemple, il parle à Timothée, il dit, c'est à cause de ça que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Puis je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Là, Paul continue à dire à Timothée, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » La phrase clé de ce qu'on va regarder, c'est « Garde le bon dépôt ». C'est 2 Timothée 1, 12. Le verset clé, c'est le verset 14. « Garde le bon dépôt. » Là, ici, ce qu'on va comprendre, c'est que Paul, il s'adresse à Timothée, c'est un homme, un serviteur dans l'œuvre de Dieu, puis Paul est en train de dire « Garde le bon dépôt. » Autrement dit, il y a quelque chose qui a été déposé en toi, que tu as reçu, que Dieu t'a donné, selon tes capacités. C'est quelque chose que faut que tu fasses attention. Il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. C'est quelque chose que tu reçois quand tu te convertis, mais que tu dois prendre garde dans ta vie, que tu dois faire attention, que c'est pas quelque chose d'acquis, puis quelque chose que tu dois négliger, ou quelque chose que tu dois, comme, pas t'en préoccuper, puis de mettre ça de côté, puis même peut-être de l'enterrer. Paul, il est en train d'exhorter Timothée, puis il dit, écoute là, il dit, moi c'est à cause de ça que je souffre fidèlement. À cause de qu'est-ce qu'il savait, à cause de qu'est-ce qu'il avait reçu en lui, Paul savait que qu'est-ce qu'il avait reçu, c'est important qu'il garde, puis qu'il en prenne soin, puis qu'il s'affermisse dans ce qu'il avait reçu, puis qu'il fallait qu'il mette au service de l'œuvre de Dieu. Puis il dit, c'est à cause de ça que je souffre, j'en ai point honte. Puis il savait en plus, il avait la foi que Dieu avait le pouvoir de garder son dépôt, que Dieu était pour veiller sur lui. Lui, sa préoccupation, je dois faire attention à ce qui a été déposé en moi, pas négliger ça, pas en avoir honte. Puis je sais quand même que Dieu va me garder, puis il va le garder mon dépôt qui est en moi. Puis là, Paul est en train de dire à Timothée, fais attention là, retiens dans la foi et dans la charité, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi, puis il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Là, on voit que le dépôt, c'est pas nécessairement le Saint-Esprit. C'est vrai que quand on s'est converti, le Saint-Esprit a été déposé. Mais dans le dépôt qui nous a été donné, il dit, garde le dépôt par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui a été déposé en chacun de nous en se convertissant, qui est autre chose que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, mais Dieu nous a équipés de plus que le Saint-Esprit. Il y a plusieurs choses, puis on va toutes les voir dans les autres études. Dans Strong, c'est une concordance biblique qui donne des explications des mots grecs puis des mots hébreux. Quand on parle du mot dépôt, le sens de ça, c'est une chose qui est consignée. Tu sais, quand tu allais acheter une bouteille de liqueur, en vite, tu donnes un dépôt. Pour la bouteille, tu donnes 5 cents de la bouteille de plastique ou 10 cents de la bouteille de vitre, tu sais. Tu as un dépôt à mettre pour la bouteille, puis tu sais que là, tu l'as pris, mais quand tu la ramènes, la bouteille, il te redonne ton dépôt. Mais le sens de ce dépôt-là, c'est dans le même sens que ça que le texte dit. Quand Jésus est entré dans votre vie, il vous a donné le Saint-Esprit, puis il vous a aussi donné un dépôt en attendant qu'il revienne chercher le reste. C'est quelque chose qui a déposé, puis ça nous dit aussi dans Strong que c'est comme une responsabilité confiée à un gardien fidèle. Ça veut dire, Dieu il a confiance en nous autres, on est venu à lui, il nous a reçus, il nous a donné son Saint-Esprit, puis en plus, il nous a donné un dépôt. Puis il dit, prends-en soin, garde-les, fais attention, développe. Ça revient un peu à l'exemple des paraboles quand ses serviteurs sont venus à lui, puis il a donné à chacun une portion de ses biens selon leur capacité. Puis c'est comme aller à la banque. Avez-vous confiance quand vous allez à la banque, allez déposer votre paye?
Bien sûr.
On y va les yeux fermés. Puis des fois même, on a tellement confiance qu'on a dit à notre compagnie, fais un dépôt direct. Ils déposent direct notre paye à la banque. Comme si on sait que la banque, c'est une source fiable, que si tu déposes ton argent là, tu n'as pas de problème à t'inquiéter, tu vas-tu perdre ton argent? Non. Tu as confiance que la banque va bien gérer ton argent. Tu as déposé ton argent, tu peux aller en retirer, en remettre. Mais l'idée, c'est de la confiance, de déposer quelque chose. Puis Jésus, c'est la même chose. Il nous a fait confiance, puis il a déposé quelque chose de précieux en chacun de nous. Un autre passage qui nous dit dans Éphésiens 1, 13 à 14, il y a comme deux passages qui vont se suivre. 1 Corinthiens 13 et 14, puis il y a 2 Corinthiens 5, 21 et 22. C'est deux passages qui parlent encore un peu à ce sujet-là, mais un peu autrement. Les deux, mais le premier c'est Éphésiens 1, 13. Puis le deuxième, mettez votre doigt déjà au deuxième, 2 Corinthiens 5. Bon, on va voir qu'il y a des choses qu'on a reçues, qu'on le sait déjà qu'on l'a reçu. Là. Je dis pas qu'on sait rien de ce qu'on a reçu. On a reçu, j'ai déjà reçu plein d'affaires qu'on sait qu'on a reçues, mais il faut qu'on passe à travers de chacune de ces choses-là pour vraiment saisir la profondeur du dépôt qui a été mis. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, ça c'était en Jésus, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Alors, combien d'entre nous ont cru en Jésus? Chacun de nous, ma gloire à Dieu. Vous avez tous cru en Jésus, vous avez entendu la parole, puis vous avez cru en l'évangile, vous avez cru que Jésus était mort sur la croix pour pardonner vos péchés, c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle, qu'on pouvait avoir la vie éternelle gratuitement par l'œuvre de Jésus. Si vous avez cru ça, ça nous dit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. À partir du moment que vous avez cru en Jésus, vous avez cru en l'évangile, vous avez décidé de mettre votre confiance, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient, puis t'es scellé. Savez-vous ce que ça veut dire, scellé? C'est quoi un sceau? Un sceau, c'est un étang. C'est un punch. C'est pareil comme...
C'est sa propriété.
Ça désigne que c'est sa propriété. Ça, c'est un bon exemple. Mais c'est un sceau. C'est un étang que Dieu met sur nous autres. Pif, il nous penche, je ne sais pas si c'est dans le front ou ailleurs, puis c'est marqué « propriété privée de Dieu ». On appartient à Dieu. À partir du moment qu'on s'est donné à lui, qu'on s'est approché de lui, on a cru que Jésus t'a mort sur la croix, il y a un sceau que le Saint-Esprit vient te mettre sur toi et te touche. « Propriété privée de Dieu ». Puis au verset 14, on continue, « lequel, c'est un gage de notre héritage ». Un gage, là, c'est un acompte pour notre héritage. C'est un acompte qu'il nous a donné pour notre héritage, pour nous dire, vous faites partie des héritiers. Mais quand vous avez été salués du Saint-Esprit, c'est un gage pour ton héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. L'autre passage, 2 Corinthiens 5, 21, qui est un peu dans le même sens, Corinthiens 5, 21 et 22, il dit, « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Nous sommes des oints. Nous sommes des gens qui sont affermis en Jésus à cause de Dieu qui fait l'œuvre en nous. « Lequel il nous a aussi marqué d'un sceau. » Ça revient à la même idée que tantôt. « Il a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » C'est sûr que ça, c'est un mot qui est pas un mot qu'on utilise souvent en français, là, mais c'est le mot que Louis II a utilisé. Fait que dans les deux versets, ça nous dit qu'on a été marqué d'un sceau. C'est le sceau du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui vient mettre un sceau comme quoi qu'on lui appartient. Puis dans un des passages, dans le premier passage, ça dit c'est un gage de ton héritage. C'est un acompte de ton héritage. Puis dans l'autre, c'est le mot art, les arts. Or, c'est le même sens, ça veut dire la même chose que gage. Gage ou or, c'est la même chose. Ça veut dire, dans le dictionnaire biblique, il dit, c'est de l'argent qui a été mis en paiement en attendant que le solde soit payé. Quand vous allez acheter une télévision, puis vous donnez un dépôt à la télévision, vous donnez un montant d'argent, en réalité, cette télévision-là, c'est à moins. Fait juste attendre que je vienne te ramener la balance du paiement. Le dépôt qui a été mis là en attendant, c'est un gage. C'est un dépôt. C'est un or. C'est la même affaire. C'est le même sens. Fait que, quand on s'est converti, le Saint-Esprit est venu nous marquer de son sceau, puis il a déposé quelque chose en nous, puis il dit ça, là, c'est un acompte. En attendant que vous obtienniez la balance de votre héritage. C'est un acompte que je vous donne pour vous montrer que vous m'appartenez, que je vous ai déjà déposé quelque chose en vous en attendant que je vienne vous rechercher. Vous m'appartenez déjà, il y a déjà mis un dépôt sur nous autres, puis il n'y a personne qui peut nous enlever de là, mais il faut faire attention à ce dépôt-là qu'on a reçu. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 5, 21. Et 22. Ah, ben là, je me suis trompé dans ma référence. Ben, s'il y en a un qui... C'est-tu ça que ça dit?
Oui.
Je vais le corriger. 2 Corinthiens 1, 21. Ah, vois-tu? Bon, ben, ça... Voyez-vous, vous avez bien fait. Je vois là, je vois que vous êtes attentif à ce que je dis. La Bible a dit... Il ne faut pas se fier à tout ce qu'on entend. Il faut aller vérifier dans la Bible, voir ce qu'on dit, c'est exact. Bon, mais vous avez vérifié, vous avez trouvé la référence en plus, gloire à Dieu. Vous venez de l'Institut, de la bonne Institut. Jésus, quand vous êtes converti, il a mis un dépôt, il a mis un acompte, il a mis un acompte en attendant qu'il vienne payer la balance pour venir nous ramasser avec lui. Puis ça, c'est en attendant qu'on reçoive l'héritage. Dans Colossiens 1, 12, ça nous... Si c'est la bonne référence, ça dit 1:12, Colossiens. Colossiens 1:12 jusqu'à 14, ça dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Gloire à Dieu, on fait partie des saints qui vont avoir l'héritage dans la lumière. Puis il dit « Le rendez déjà présentement, gloire à Dieu, de ce qui vous a rendu capable d'avoir fait partie de la gang des saints qui vont vivre éternellement dans la lumière de Dieu. » C'est le moment présent. Vous êtes déjà assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Lois, vous avez déjà un acompte dans vos vies, un dépôt qui a été mis comme quoi qu'on lui appartient. C'est ça qui est le sens du dépôt. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis nous a transportés dans le royaume de son Fils. On est déjà sortis du royaume de Satan. On était esclaves avant de venir à Jésus. On était poignés, enchaînés par nos péchés, enchaînés par les chaînes de l'ennemi. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu es déjà une personne sortie des ténèbres puis transportée dans son royaume. On est déjà des habitants des lieux célestes, sauf qu'on n'est pas encore rendu. Mais en attendant, on le sait qu'on a déjà un acompte qui nous garantit qu'on fait partie, qu'on est les héritiers. Spirituellement puis en physiquement, on est déjà des rachetés. On voit des passages. Justement, dans ce verset-là, il dit au verset 14, ben, au verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du feu de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il y a deux choses qu'on a eues en venant à Jésus. Premièrement, il a effacé la dette de nos péchés. On est arrivé tout sale, tout souillé, tout impur. Impossible de rentrer en contact avec Dieu à cause de l'épaisseur, de la puanteur du péché, de nos propres péchés et des péchés de nos ancêtres. On est impossible d'entrer en présence de Dieu. Il fallait que le problème du péché soit réglé. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En venant à Jésus, premièrement, il faut qu'il te remette ta dette. Parce qu'on a toute une dette devant Dieu avant de venir à Jésus. Une dette à payer, puis c'est une dette qu'on va payer pour l'éternité séparée de Dieu. Mais il fallait que cette dette-là soit payée. Jésus a payé la dette de nos péchés. À cause de Jésus, il nous a remis notre dette. Tu viens à Jésus, il te remet ta dette, il te donne même un acompte, tu m'appartiens. Je te donne un dépôt en attendant, les promesses sont pour toi. Puis il nous a donné la rédemption aussi. Ça veut dire quoi la rédemption? Hein? La rédemption, c'est plus dans le sens de rachat. Il fallait qu'il nous rachète. Pourquoi il fallait qu'il nous rachète? À cause du péché d'Ève et de nos propres péchés, qu'est-ce qui s'était produit? C'est que Satan avait un droit légal de régner sur nous. On était dans le royaume des ténèbres, lié dans le royaume des ténèbres, et le diable avait le droit de régner sur nous parce qu'on était lié à cause du péché d'Adam et Ève et de nos propres péchés. On s'était comme assujetti à être le serviteur du diable. Puis la Bible a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Puis il fallait que quelqu'un paye. Qu'est-ce que ça coûte pour pouvoir nous racheter? Il y a un prix qu'il fallait qu'il soit payé pour qu'il nous rachète. Pour que le diable n'ait plus le choix, il ne peut plus nous garder captifs, qu'on puisse sortir, il fallait qu'il paye la dette. Puis la dette est payée par Jésus-Christ. Il a payé la dette qui nous rachète. C'est comme tu arrives, tu as acheté une télévision, elle t'appartient, tu t'en vas au prêt sur gage, qui est un pawn shop, tu mets la télévision là, puis tu prêtes de l'argent. Mais arrêtez, la télévision, en principe, t'appartient plus. Même si c'est tatoué. Il faut que la dette soit payée pour que tu puisses la revoir. Il faut que tu rembourses ta dette, là tu peux récupérer ta TV. C'est la même chose dans la vie spirituelle.
Lui, en payant la dette, il a donné sa vie.
Exactement. Il a payé la dette, il a donné sa vie, Jésus, pour qu'on puisse être racheté, pour que ça soit pour lui un peuple de racheté. C'est tout le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est tout un peuple de racheter, de gens qui ont été rachetés, des gens que leur dette a été rachetée, que maintenant on appartient à Jésus parce qu'il a payé pour. Le diable ne peut plus dire, c'est en cours à moi. Non, la dette, ce gars-là, mettons Daniel, il s'était livré à toi, puis il se devait à toi parce qu'il avait accepté ta seigneurie. Le diable, il avait comme un droit de régner sur moi. Maintenant, Jésus a payé la dette. Maintenant, il fait partie de mes enfants. Il m'a sorti du royaume des ténèbres, m'a emmené dans son royaume de lumière. Puis je fais partie de ceux qui vont à l'héritage céleste. Tout ça payé par Jésus. Gloire à Dieu. Il dit, rendez gloire au Père de ce qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. C'est déjà acquis en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Puis, qu'est-ce que Dieu dit à cause de ça? Il y a une promesse dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 43. Ça, lisez pas, mais on vous la lit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Jésus, fallait qu'il rachète son peuple. Il dit, crains pas au Jacob, crains pas au Israël, mais on parle en parenthèse, de la vraie Israël de Dieu, des élus, et non pas du peuple juif. Le peuple juif sont descendants de la chair, mais ne sont pas nécessairement le véritable peuple de Dieu. Dieu nous dit ce matin, crains rien, je t'ai racheté, tu m'appartiens, t'es à moi, inquiète-toi pas. Ça, retenez ces idées-là, parce que quand on va aller voir, on va retourner à Matthieu 24, à la fin du message, celui qui avait enterré son talent, il dit, j'ai eu peur. Pourtant, il faisait partie des serviteurs de Dieu, mais il a enterré son talent, puis il dit, j'ai eu peur. Pourtant, Dieu dit, je t'ai racheté, ne crains rien. Tu n'as pas à avoir peur d'avancer pour Dieu, de vivre pour Dieu, de marcher avec Dieu. Tu y appartiens, tu es important pour lui, puis il a payé le gros prix pour te racheter, il te met un dépôt en toi. Tu es à Dieu, inquiète-toi plus pour ta vie. Prends garde seulement à garder le dépôt, à faire attention au dépôt que tu as reçu. Il dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Chacun de nous, je ne connais pas vos noms, mais Jésus vous connaît. C'est pas important que je sache votre nom, c'est important que Jésus sache votre nom. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'il l'écrive dans son livre de vie. Vous faites partie de ses élus, vous avez la vie éternelle parce que vous avez mis votre foi au Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Un autre verset dans Zacharie 2:8, il dit, celui qui vous touche, en parlant de ses disciples, c'est comme si tu touches à la prunelle de son œil. Pour Dieu, là, la prunelle de notre œil, là, c'est le je sais pas c'est quelle partie de l'œil. Mais c'est quelque chose qui est c'est devant notre œil. Si, autrement dit, là, si quelqu'un vous fait du mal quand tu appartiens à Dieu, là, c'est comme s'il était en train de mettre le doigt dans l'œil à Dieu. Dieu va s'arranger avec. Il ne laissera pas aller. Celui qui vous fait du mal, celui qui vous touche, celui qui vous persécute, celui qui vous insulte, Vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter, de vous alarmer. Dieu, il vous a à cœur, puis Dieu, il va s'arranger pour y régler son cas. Celui qui touche à un des serviteurs de Dieu, tu touches à la prunelle de son œil. C'est comme tu mettrais le doigt dans l'œil à Dieu, comme par insulte ou par... On est important à Dieu. Dans Romains 8, 22, ça nous parle de la création qui souffle les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est un sens figuré. C'est comme si la terre, la création, va enfanter quelque chose. C'est enfanter les enfants de Dieu. Présentement, c'est comme si la terre est en mouvement d'enfanter quelque chose. Puis les enfants de Dieu sortent un par un. Ils se rajoutent au corps de Christ. Ils prennent part au rachat. Puis ils reçoivent le dépôt. Puis c'est ça que ça nous dit dans ce texte-là. Or, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et c'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Paul est en train de dire que présentement, quand on vit sur la terre, quand tu es un enfant de Dieu, tu es dans le soupir, tu as hâte que cette vie-là finisse. Tu souffles, là, toi aussi, tu as hâte de voir le rachat de ton corps. Pourtant, quand on est venu à Jésus, tu as eu le rachat de ton âme. Tu es déjà racheté, tu es déjà sorti, mais ton corps est encore le corps de ce monde. Il y a une chose qui doit se passer, c'est que quand on va être rassemblé avec lui, c'est à ce moment-là qu'on va recevoir le corps céleste, le corps glorifié, le corps qui était semé méprisable mais qui va ressusciter glorieux, qui était semé infirme mais qui va ressusciter plein de force. C'est à ce moment-là qu'on va revêtir notre domicile céleste, qui est le nouveau corps créé à la nouvelle image de Dieu reflétée, comme Jésus a présentement. Puis nous autres, on a reçu les prémices de l'Esprit. C'est quoi les prémices? C'est quelque chose qu'on a déjà. Prémices, le mot prémices, là, tu sais, quand tu fais une récolte, il fallait que tu donnes les prémices de ta récolte à Dieu. C'était un dixième dans l'Ancien Testament. C'est une part que tu mets à part. Une part de ce que tu as eu comme gain, tu le mets à part pour le mettre au service de Dieu. Puis présentement, la terre souffre les douleurs de l'enfantement. Puis il y a comme des individus qui sont comme mis à part pour Dieu. Des individus qui se greffent au corps de Christ, des individus qui rentrent dans la famille de Dieu puis qui deviennent des saints, qui vont vivre éternellement dans la lumière. Des individus qui ont reçu la grâce de Dieu, puis qui ont reçu le rachat, ils ont reçu la rédemption, ils ont reçu le dépôt, ils ont reçu le sceau de l'Esprit, ils ont reçu le gage, ils ont reçu les arts, le dépôt, en attendant que ça se fasse. Gloire à Dieu! Alléluia! Je ne sais pas si ça vous excite, moi, ça me baigne au bout. 1 Timothée 6, 20, Paul, il reprend encore un texte à Timothée. Tout à l'heure, c'est un texte qui disait à Timothée, il dit, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Fais attention au Saint-Esprit. Fais attention au dépôt que le Saint-Esprit a mantoué. » Puis dans ce verset-là, ça nous dit encore la même affaire. Paul fait deux fois qu'il avertit Timothée dans ce sens-là. Il est en train de dire, « Ô Timothée, garde le dépôt. » Il se passait quelque chose dans la vie de Timothée. Peut-être qu'il était rendu avec un petit dangle spirituel, puis qu'il se laissait aller. Puis il embarquait dans des affaires qui n'étaient pas du Seigneur. Il faisait pas attention à ce qu'il avait reçu. Paul est au bout de l'exhorter deux fois. Celle-là, c'est dans 1 Timothée, puis l'autre lettre était dans 2 Timothée. C'est que Paul a envoyé deux lettres, puis dans les deux lettres, il a dit la même affaire. Il se passait quelque chose que je ne sais pas, mais que ce qu'on tient comme instruction là-dedans, c'est je crois que chacun de nous, on doit prendre l'exhortation que Timothée a reçue. Il faut faire attention de garder le dépôt qu'on a reçu. Intact. Pour toutes sortes de raisons, puis on va le voir. Là, il dit dans ce verset-là, il dit « Évite les discussions vaines et profanes puis les disputes de fausses sciences. » Là, il est comme s'il était embarqué à s'ostiner avec plein de monde, puis que là, il embarquait dans des faussetés, puis à s'ostiner dans des faussetés, puis ça l'attriste le Saint-Esprit. Ouais. Là, on va revenir dans Matthieu 25. On achève le message avec ça. C'est le premier verset que je vous introduis, puis c'est important. C'est pas moi qui les ai écrits, ces versets-là. Mais je crois que ça fait partie de la parole de Dieu puis que Jésus a un message à nous donner aujourd'hui. Matthieu 25, à partir du verset 14, mais là, on va la lire au complet, la parabole. Puis, on va juste s'arrêter sur certains mots pendant qu'on la lit. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, y appelle ses serviteurs, puis il leur remit ses biens. Comme j'ai dit tantôt, c'est nous autres qui est chacun de ses serviteurs. Il nous a déjà remis ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. On en a tout eu. Tu peux en avoir 1, tu peux en avoir 2, tu peux en avoir 4, tu peux en avoir 5, tu peux en avoir 10 talents. Tu as déjà reçu quelque chose en te convertissant, puis c'était selon ta capacité. Hein? C'est la foi est là, ben ça va aussi avec des capacités. On va le voir dans les autres études, si on va y développer les talents. Pas les talents, mais ouais, les talents. Là, il a remis ses talents à chacun, puis il est parti. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, il s'en alla, les fit valoir, puis en gagna 5 autres. Hey, c'est extraordinaire. Il n'avait reçu 5 selon sa capacité. Suite, il est parti à s'investir dans l'œuvre de Dieu. Il était rendu à 10. Ça veut dire que ses talents avaient augmenté. Il était capable d'en gérer 5, il était rendu à 10. Ça veut dire qu'il y a eu un développement dans sa vie parce qu'il s'est impliqué dans l'œuvre de Dieu, puis ça a apporté du fruit. De même, celui qui avait reçu 2 talents, il en gagna 2 autres. Ça, ça nous montre quasiment que c'est quasiment automatique. Tu reçois quelque chose de la part de Dieu, tu le mets au service de Dieu, puis ça fait rien que multiplier, puis ça porte du fruit tout seul. C'est pas ta force à toi qui va faire que ça pousse. C'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait le travail pour que ça produise. Mais il faut que tu le mettes dans l'œuvre. Il ne faut pas que tu restes assis sur une chaise chez vous, parce que tu n'es pas dans l'œuvre à ce moment-là. De même, celui qui avait reçu qu'un. Il allait faire un creux dans la terre. Il allait faire un trou. Il cacha l'argent de son maître. Longtemps après. Ça, des fois, quand on dit longtemps après, là, ça dit que le maître va revenir. Longtemps après. Il y en a-tu qui sont découragés que ça fait longtemps que Jésus dit qu'il va revenir et qu'il n'est pas encore revenu? Ça fait 2000 ans qu'il l'a dit. La Bible nous dit, s'il retarde, là, c'est parce qu'il use de patience envers nous afin qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il en veut le plus grand nombre possible avec lui. Il veut pas que le monde périsse, il veut qu'il arrive à qu'il se repente, puis qu'il revienne à repentance, qu'il revienne à repentance, puis qu'il rentre dans son royaume. Dieu, il est patient, puis plus qu'il va en avoir dans le ciel, mieux que c'est. C'est pas le désir de Dieu de finir tout ça là bien rapidement puis dire que ça rentre le trouble. Non. Dieu est patient envers chacun de nous autres. La preuve, il a attendu assez longtemps pour que nous autres, on puisse rentrer. C'est 2000 ans après qu'on est rentrés, là, nous autres. Là. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Ça, là, faut le souligner dans notre Bible. Faut pas penser que quand tu es venu à Jésus, tu recevais le salut, puis que tout est accompli, tu vas rester assis chez vous, puis que tout est fait. Non, ce qui t'a mis là en dépôt, il va te faire rendre compte de ce qui t'a déposé. Chacun de nous, on va avoir à rendre compte devant le Seigneur. Je dis pas ça pour qu'on sente une condamnation ou une culpabilité. Si vous sentez une culpabilité aujourd'hui à cause de ça, croyez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous convaincre que c'est pas correct, ou peut-être vous avez une voix qui n'est pas correcte, puis qu'il veut vous ramener. Il ne faut jamais prendre une touche du Saint-Esprit de culpabilité, puis de s'en remettre à rejeter Dieu 2 fois plus, parce qu'on se sent coupable, qu'on on s'éloigne. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire, il m'a accueilli, je fais partie de sa famille, mais si je sens un effet de culpabilité, c'est pour me le montrer, sinon s'il ne me le montre pas, je ne changerai jamais. Puis si on réalise notre état et qu'on demande pardon au Seigneur, tu es pardonné instantanément. Aussi vite que tu le dis, que tu demandes pardon, aussi vite que tu es pardonné. Dieu, il n'est pas un gars comme nous autres, qu'on attend que la personne nous ait dit 25 fois qu'il nous demande pardon, puis on a encore de la misère à lui pardonner. Dieu ne marche pas de même. Tu lui demandes pardon, il te pardonne. Suite, instantanément. La honte à sa croix. Puis tout de suite, quand il a reconnu qu'il n'était pas correct, puis que Jésus était correct, il a commencé à prendre position. Aussi vite qu'il l'a demandé, aussi vite il dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bon. Il va nous faire rendre compte de nos talents. Dites-vous pas en vous-même, j'ai rien reçu. C'est faux. C'est une menterie de l'ennemi, ça. Vous avez tous reçu. Là, ça nous dit que celui qui avait reçu 5 talents, il s'approcha. Il en apporta 5 autres talents, puis il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Jésus dit, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, t'as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. » Verset 22, « Celui qui avait reçu 2 talents, il s'approcha, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, t'as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. » C'est pas important de la quantité de talents si vous en avez 10 comparativement à l'autre, vous voyez qu'il y en a 5, puis commencez à se comparer. Oh, ben moi j'en ai 5, puis lui il en a 10. C'est pas important jusqu'à combien vous êtes rendu aujourd'hui de talents devant Dieu. Parce qu'il va vous dire la même réponse à l'un comme à l'autre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je t'en avais confié 2, t'es rendu à 4, l'autre je t'en avais donné 5, t'es rendu à 10. C'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Dieu est content de l'effort. Et pas nécessairement qu'on est tous des Billy Graham, on ne sera jamais un Billy Graham. Puis Dieu sait qu'on ne sera pas un Billy Graham, puis il nous a pas donné la capacité de remplacer Billy Graham. Puis si je me compare à Billy Graham, ce gars-là a fait le tour de la terre, prêché à des millions de personnes, puis voir des milliards de personnes entendre son message, puis nous autres, on a de la misère à être entendus par 25 personnes. L'idée, ça, c'est pas grave la comparaison. Il voue ton cœur, ton effort en train d'avancer dans l'œuvre, puis il dit bon et fidèle serviteur. Il t'accueille autant avec joie dans la joie de ton maître d'un d'eux. Le seul petit hic, il ne faut pas faire partie du troisième qui s'est enterré. Il dit, celui qui avait reçu qu'un talent, il s'approcha ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne ou ce que tu n'as pas semé, qui amasse ce que tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Pourtant, on avait la promesse tantôt, ne crains rien, n'aie pas peur. Mais lui, la peur l'a arrêté. La peur de quoi? Parce que toutes les réponses dans la Bible, on les trouve pour anéantir nos murs, nos liens, nos chaînes. Si tu t'étudies la Bible, peur, même s'il a eu peur, s'il a eu peur de ne pas accomplir la tâche de son maître, il n'a pas fait confiance que ça produirait tout seul par la puissance de l'efficacité de ce dépôt-là qui est auto-fructifiant. C'est une semence surnaturelle. Tu la reçois, la Bible, la parole de Dieu, c'est une semence surnaturelle, ça produit automatiquement. Si tu l'enterres, par exemple, si tu ne la laisses pas dans ta vie, tu l'enterres, tu le sais que tu l'as, mais tu t'en fous, tu gardes pas ton dépôt, tu ne fais pas attention, tu l'enterres, puis tu vas pas te joindre à l'Église, tu ne vas pas embarquer dans le chemin. Tu as beau savoir que Jésus est le Sauveur, s'il n'embarque pas dans le chemin, ils font partie de ceux qui se laissent enterrer. Il y en a qui ont peur, puis ils vont cacher leur talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître répondit, serviteur, méchant et paresseux. L'autre tout à l'heure, c'était bon et fidèle. Lui, c'est méchant puis paresseux. Si une personne n'avance pas dans l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'elle est paresseuse. Ou si une personne n'avance pas dans l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'elle est méchante. Elle ne veut pas vraiment suivre Jésus. Même si elle avait reçu de Jésus le talent, elle faisait partie des serviteurs. Il ne faut pas penser que ça s'adresse à des gens dans le monde. Ça s'adresse à des gens qui ont reçu de la part de Dieu quelque chose à un moment donné, mais que dans leur vie, ils ont décidé de tout balancer. Au verset 27, il dit, « Te fallait donc remettre mon argent au banquier, puis à mon retour, je retirerai ce qui est à moi avec un intérêt. » Autrement dit, si tu avais mis ça au service de l'œuvre, ce que tu as reçu, c'est automatique que j'aurais reçu des intérêts. Ça aurait multiplié. Là, Jésus, il dit, ôtez-lui donc le talent, puis donnez-lui à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a, puis il sera dans l'abondance, puis à celui qu'on n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il y en a qui vont frapper un mur en du haut de bord. Ils pensent que j'ai accepté Jésus en 1980. « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, ben moi, ça fait longtemps que je vais pas à l'église, je ne veux plus rien savoir de la religion. Pour moi, je sais que Jésus sauve, je suis sauvé, je m'en vais au ciel, j'ai la vie éternelle. » Il s'assit sur une confiance qui n'est pas biblique. Le fait de croire que une fois sauvé, toujours sauvé, c'est dangereux. C'est pas dangereux pour celui qui reste fidèle dans le Seigneur, parce que lui, il va toujours avoir la confiance qu'il a été sauvé puis qu'il va rester sauvé parce que il a confiance puis il avance puis il s'investit dans l'œuvre. Il n'y a pas de problème. C'est dangereux pour celui qui pense j'ai accepté Jésus puis là je peux rester dans mon ancienne vie puis il change rien. La nouvelle vie prend pas place. Même s'il l'a reçu, il ne laisse pas se développer en joignant des chrétiens puis vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça se vit. C'est pas un titre. C'est quelque chose, ça a commencé à partir du moment où tu es converti. Là, il dit, ôtez-lui ce qu'il pensait d'avoir, autrement dit. Il pensait de l'avoir, enlever lui, puis donner-le à celui qui en a 10.
Il a enlevé
son dépôt. Oui. Puis au verset 30, c'est le pire. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements dedans. Il va être rejeté. Moi, je ne veux pas vous laisser sur une note négative. Ce que je veux, c'est qu'on s'encourage. Qu'on prenne l'exhortation que Paul a dit à Timothée. Timothée, garde le dépôt par le Saint-Esprit. Prends garde au dépôt que Dieu a mis en toi. C'est quelque chose qu'il a déposé. Tu as peut-être des peurs. Fais-toi-en pas, laisse-toi pas arrêter avec tes peurs. Jésus t'a accueilli. Jésus t'appelle par ton nom. Jésus t'a choisi. Il t'a racheté. Tu lui appartiens. Il a déposé son Saint-Esprit en toi. Il a mis son sceau sur toi. Il t'a mis son gage en toi. Les arts de l'Esprit. Il dit, t'as déjà un acompte en attendant pour être sûr que tu fais partie de ma gang. Je t'ai donné ce dépôt-là. Attends, je reviens. Je vais revenir te chercher. Même si tu trouves que c'est long d'attendre. Parce qu'elle nous a dit que le maître, il revient longtemps après. C'est pas grave, l'attente. Continue à t'encourager, à te réchauffer spirituellement, à avoir le désir de t'impliquer, à rechercher la communion fraternelle avec les frères et sœurs, à aller à l'église, à aller recevoir l'enseignement, à continuer à prier, persévérer dans le mouvement, dans l'œuvre du Seigneur. C'est sûr que votre vie va porter du fruit, puis que votre fruit va devenir abondant. Puis quand on va arriver devant le Seigneur, il dit, on n'aura pas à rougir. On n'aura pas à rougir quand Jésus a venu nous chercher. Puis, oh non, j'ai négligé, j'ai mis de côté ma vie chrétienne. Il fallait que je m'implique dans l'œuvre, puis je le savais, j'ai reçu, mais j'ai laissé passer, j'avais peur pour toutes les peu importe la raison. Puis j'ai négligé, puis il va nous traiter de paresseux, puis de méchants. Puis il va nous jeter dehors. On n'entend pas souvent ces messages-là parler aujourd'hui, mais ça fait partie de la Bible. Pas moins que l'écrit, ce verset-là a été écrit là, puis ça avait ce sens-là. Jésus veut qu'on sert de ça pour s'encourager. Faites attention, vous avez tous reçu égaux, puis si vous êtes un navire reçu deux, c'est pas grave, mais allez au service de Dieu. Vous avez tous reçu quelque chose, même navire reçu un, n'enterrez pas votre vie chrétienne. Impliquez-vous parmi les chrétiens, puis c'est impossible qu'il n'y ait pas de fruit dans votre vie quand tu es reçu et tu fais partie de la famille de Dieu. Ça va produire le fruit attendu. Tiens, on mène à cela. Dans les semaines à venir, si Dieu le permet, si clairement le permet, puis si Dieu nous donne encore d'être là, on verra des différents points qu'on a reçus. C'est quoi qui est constitué ce dépôt-là? Il y a plusieurs choses. C'est intéressant. Que Dieu vous bénisse.